Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir. Avant de lancer l'émission du jour que nous avons préalablement enregistrée parce que nos invités venaient de province et ne pouvaient pas être disponibles un lundi après-midi, je voulais juste signaler à ceux qui n'ont pas eu la chance de venir au Salon du Livre Libertaire ce week-end que ça a été une vraie réussite. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde, des gens qui étaient surpris de voir des anarchistes dans un Salon du Livre. Ça, c'est habituel. Et on espère bien que le prochain aura lieu très bientôt, a priori dans 2 ans. On essaye de le faire tous les 2 ans. Là, il y a eu une interruption pour cause de problèmes de pour avoir une salle, tout simplement. C'était pas du tout une fatigue militante. Eh bien, je vais vous laisser en compagnie de Marcel et Christian qui vont nous parler d'un personnage tout à fait fascinant, Eugène Cotte, et je vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour, une nouvelle émission Trou Noir, donc avec deux invités qui vont nous parler de, à la fois d'un livre et d'un individu très intéressant que j'ai découvert d'ailleurs totalement à travers ce livre. Donc, c'est un livre qui est sorti récemment, je crois vers la fin 2016. Donc je vous donne déjà le titre, hein, je le rappellerai plusieurs fois. Donc le titre c'est « Je n'irai pas, mémoire d'un insoumis » donc d'Eugène Cotte, C-O-T-E, et c'est aux éditions de La Ville, si je me souviens, La Ville Brûle. Et bon, je vais un peu passer la parole à nos deux invités, particulièrement à sa fille, donc la fille d'Eugène Cotte, qui est Marcel Bréchet, qui va un peu se présenter, puis aussi on verra un petit peu comment ce livre a pu être publié. C'est un livre important pour moi, à la fois par son contenu et aussi par ce personnage, cet individu qu'on rencontre. Et Christian aussi, qui nous a fait connaître Marcel et l'existence de ce livre, qui va se présenter un petit peu, voilà. Donc je passe la parole déjà à Marcel Bréchet pour se présenter déjà un peu rapidement. Et puis après, on demandera à Christian aussi. Et puis on regardera un petit peu comment ce livre a pu être publié très récemment.
Alors je suis la fille d'Eugène Cotte. Et je dois dire que j'ai eu des parents assez extraordinaires. Qui m'ont apporté beaucoup de choses, qui m'ont permis de faire des études. Et j'ai découvert, je savais que mon père avait écrit ses mémoires, mais je ne les avais pas lues. Et j'ai attendu 20 ans après sa mort pour en prendre connaissance. Pourquoi si longtemps? Parce qu'au moment de son décès, j'avais eu pas mal de problèmes familiaux graves. Je n'étais pas disponible pour ça. Et quand j'ai pris connaissance...
Mais sinon, vous ne connaissiez, connaissiez pas le contenu, vous ne l'aviez pas eu
l'occasion
de voir.
Je connaissais le contenu, si, quand même un peu.
Un peu.
Parce que mon père en avait parlé avec ma mère. Et je savais qu'il avait refusé de faire son service militaire, qu'il avait refusé de s'alimenter, qu'il avait été réformé, et qu'ensuite il était parti à la guerre. Bon, en gros, je savais ça. Je connaissais aussi ma grand-mère paternelle et ma tante, deux personnes à qui mon père était très attaché. Quand j'ai lu le livre, j'en ai parlé tout d'abord à Madame Touvenot, qui avait été mon prof quand j'étais au collège de Montargis, et qui s'occupait d'une revue. C'était les Amis du Vieux Montargis, qu'elle avait fondée avec son mari. Elle a lu le manuscrit, qui est écrit en écriture très fine, très lisible, mais vraiment très fine et assez difficile de... Oui, il fallait faire attention. Et elle en a tiré des extraits, qu'elle a recopiés à la main, et qui ont été publiés dans plusieurs revues de cette association. Puis, les choses en sont restées là un petit peu. Et ensuite, j'en ai parlé, j'ai fait des photocopies agrandies déjà. Et je les ai montrées à mon ami Philippe Worms, qui a écrit l'avant-propos du livre, qui était un ami d'un de mes fils, qui était venu chez mes parents, qui connaissait mes parents, qui connaissait mon père, et avec qui on est toujours très liés. Philippe, avec sa femme, ils ont tout transcrit, le manuscrit, et ils l'ont imprimé. Enfin, oui. Et puis, voilà, et ils m'ont dit, bon, ben, je ne sais pas ce qu'on va faire, on va voir, réfléchir, peut-être en tirer un film. J'ai un autre ami qui fait du théâtre qui m'a dit, ben oui, ce serait peut-être bien.
Oui, il faut dire que Philippe Worms fait des films.
Philippe
Worms. Alors, pour les auditeurs, j'ai vu qu'il avait des films sur François Béranger, oui, Brassens, entre autres.
Oui, et il fait des documentaires très intéressants. Il a fait sur les usines Renault aussi. Bon, alors, j'ai montré à Christian aussi. Je l'avais déjà montré aussi à Franck de Maumont, le maire de Chalette.
Chalette, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la proche banlieue, enfin, c'est Montargis, quoi. C'est un quartier de Montargis, oui. C'est un quartier assez populaire. Je ne sais pas si elle l'est encore,
oui,
quand je l'ai connu.
Très populaire, oui, oui. Parce qu'il y a l'usine Hutchinson. Donc le maire de Chalette, qui est communiste, m'a dit, c'est intéressant, si tu veux, on peut en tirer quelques exemplaires, bon, pour que tu puisses les lire et les donner à des amis. D'accord. On a fait ça, et j'en ai donné un exemplaire à Christian Chandelier, qui a été intéressé, qui m'a dit, mais attends, il faut le faire imprimer, il faut en tirer quelque chose, etc., etc. Bon. Et puis je l'ai montré aussi, enfin, à Philippe Worms aussi, on en a reparlé avec lui. Il m'a dit, bon, on va essayer de le faire imprimer, il faut que je cherche quelqu'un. Et il a trouvé donc cette maison d'édition à Montreuil, où il habite lui-même. La Ville Brûle, c'est une maison qui édite pas mal de livres anarchistes. Donc c'est comme ça que le livre est sorti de terre finalement, et au bout de pas mal de temps.
D'accord. De toute façon, on va rentrer un peu plus, suivre ce personnage à travers la façon dont il décrit justement sa vie et aussi toutes les réflexions qu'il y a dans le livre. Mais je vais passer la parole à Christian Chandelier, donc, qui est aussi notre invité et qui a participé un peu à la sortie de ce livre, si je comprends bien. Oui. Mais tu connaissais déjà Marcel depuis un certain temps.
Oui, Marcel est une intime, c'est une proche. Je la considère quasiment de ma famille. Quand je l'ai connu, j'ignorais cet aspect de sa vie, et c'était une découverte importante. Bon, je la connais donc bien, donc ça ne m'étonne pas vraiment. Mais j'ignorais tout cet aspect-là. J'ajoute que mon nom, c'est Christian Chandelier, mais je suis aussi membre du groupe Gaston Couté, de la Fédération anarchiste. Et donc, je le dis parce que, précisément, quand nous avons créé le groupe, nous ignorions l'histoire de Gènecote, et quand nous avions envisagé de donner un nom à notre groupe, eh bien, nous aurions pu aussi bien l'appeler Gènecote, mais aussi bien Gaston Couté. Il s'appelle Gaston Couté. Et c'est frappant de voir que ces gens d'origine extraordinairement modeste, dans le Loiret, étaient d'authentiques militants, anarchistes, des vrais. Hein. C'est-à-dire des gens qui... C'est peut-être un peu ce que voulait dire Marcel, des gens qui n'ont pas forcément la parole toujours à raconter ce qu'ils ont fait, mais qui le sont, qui le sont de fait, et qui sont d'abord des gens qui l'ont vécu, peut-être bien avant d'avoir le sentiment de le raconter ou l'envie de le raconter.
D'accord, mais peut-être avant de rentrer un peu dans l'histoire du livre, est-ce que vous pouvez déjà, Marcel, vous pouvez déjà décrire... Enfin, vous en avez parlé en une phrase, mais les rapports que vous aviez avec votre père en particulier, parce que, bon, vu ce qu'il décrit dans le livre, c'est quand même quelqu'un, je ne vais pas dire d'essai extraordinaire, mais c'est un mot que j'aime pas, mais enfin, qui a une histoire, qui est capable de raconter beaucoup de choses, à la fois ce qu'il vit et qui a beaucoup de réflexions. Et donc, enfin, moi, j'ai toujours assez sensible par rapport aux gens qui expriment un certain nombre de positions, Eugène Cotte, par exemple, savoir comment il se comporte dans la vie quotidienne. Voilà, c'est pour ça que je vous pose cette question-là, ça me paraît quand même important, parce que j'ai des fois vu des gens qui développaient des choses très intéressantes et qui, dans leur vie quotidienne, ne se comportaient pas forcément de la même façon. Voilà, c'est pour ça que je vous pose cette question-là.
Oui, alors moi, pour moi, mon père, c'était quelqu'un d'extraordinaire, et ma mère aussi, du reste. Et je crois que j'ai eu beaucoup de chance, ainsi que mon frère, d'avoir des parents comme eux. Quand je suis née, mon père avait 43 ans.
D'accord.
Ma mère, 34. Parce qu'ils avaient perdu un enfant avant. Enfin. Et mon frère est né après, en 35. Et tous les deux, on a été élevés dans un climat... Je ne sais pas comment expliquer ça. À la fois rigoureux... exigeant et très détendu aussi. C'est-à-dire nous mettant en confiance, nous donnant le goût de l'étude, vraiment. Parce que je me souviens, au point de vue des maths, par exemple, mon père avait un livre qui s'appelait « Les curiosités mathématiques ». On étudiait ça avec lui, on faisait des petits problèmes un peu amusants. Enfin bon, ça, et moi, ça, et à mon frère aussi, ça nous a donné le goût des maths. Ouais. Sans être vraiment matheuse, moi j'ai toujours aimé les maths, par exemple. Ouais. Bon. Il avait aussi des livres, le livre d'Élisée Reclus sur l'homme et la terre. C'est un livre important, en 6 gros volumes, et c'était une très belle édition, reliée et dorée sur tranche. Il avait aussi l'astronomie populaire de Camille Flammarion. Et on regardait ses livres avec lui, même si on ne lisait pas tout. On regardait la carte du ciel. Après ça, le soir, on allait voir les étoiles. Enfin bon, ça nous a éveillé beaucoup et donné le goût et l'envie d'apprendre. Et puis, je parle surtout des relations de mon père avec ses enfants, quoi, aussi. Vis-à-vis de notre mère, c'est pareil, il avait beaucoup de respect. Il décidait des choses ensemble. C'était une ambiance agréable, quoi. Jamais. Maman nous a quelquefois donné des fessées, mais notre père, jamais, il nous a battus. Jamais, jamais. Mais on lui obéissait et on savait que quand il avait dit non, c'était non, puis c'est tout. Dans nos études, il nous encourageait. Moi, j'ai très peu de camarades de mon milieu qui ont continué des études, qui ont été au collège. Les filles, elles allaient passer le certificat d'études, elles allaient à l'anglais. L'anglais, c'était l'usine Hutchinson. Et moi, à 10 ans, j'ai passé mon examen d'entrée en 6e. Mon père m'a dit, bon, ce serait aussi bien que le certificat d'études. Et puis voilà. Et puis après ça, est arrivée la 3e. Qu'est-ce que l'on fait? Tu peux continuer. Donc toujours encourageant. Et pourtant, ils n'avaient pas une situation formidable, mes parents, puisque mon père était cantonnier chef. C'était quand même pas mirobolant. Et puis ensuite, J'ai eu mon bac, j'ai attendu 3 ans parce que je voulais faire des études d'assistante sociale. Mmh. Et j'étais trop jeune pour commencer. J'ai 2 ans, j'ai travaillé pendant ces 2 ans-là. Mon frère, pendant ce temps-là, qui était à l'école technique à Montargis, il a préparé le concours d'entrée à l'école Boulle à Paris. Et puis on est arrivés à partir tous les deux à Paris ensemble. On vivait tous les deux dans un petit logement à Clichy. Je dis un petit logement, c'était pas un appartement, c'était un petit logement sans, avec l'eau sur le palier, les toilettes aussi, et voilà. Et les parents nous ont fait confiance absolument. Et toujours, on a été élevés comme ça, et ils nous disaient, on vous fait confiance, voilà. Et pas question pour nous de déroger à cette confiance et de pas faire les choses sérieusement.
Je retrouve dans ce que vous décrivez des choses qui lui tiennent certainement très à cœur, qu'on voit. Mais évidemment, moi, je l'ai connu à travers la lecture de ce livre. Donc, je vois au moins 2 aspects, évidents, enfin même 3 à la limite. Le rapport à la culture, à la lecture. D'ailleurs, dans son livre, il regrette, alors je pense qu'il a pu se rattraper peut-être après qu'il ait écrit son livre, mais il s'intéressait aussi beaucoup aux choses scientifiques, hein, pas uniquement. Il s'intéressait à la philosophie. Sophie, il s'intéressait à des tas de choses, et dans la période dans laquelle on le voit dans le livre, malheureusement, il a peu de temps, même s'il lit, mais il a peu de temps pour lire, il le regrette à chaque fois n'avoir pas suffisamment de livres ou de temps pour les lire. Donc c'est un premier aspect que lui, il transmet à ses enfants. D'ailleurs, il fait partie de ceux qui, dans les anarchistes, pensent que la culture qu'on se construit, bien sûr, qu'on construit à l'école, qu'on se construit, c'est quelque chose d'essentiel pour l'émancipation des individus, il le dit, peut-être pas cette forme-là exactement, mais enfin, en tout cas, il l'a dit plusieurs fois. Donc ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect aussi auquel on voit qu'il a été très sensible, c'est à la situation des femmes, alors que ce soit dans un couple, que ce soit aussi dans les... on en parlera peut-être un peu dans les rapports avec entre les jeunes, où des fois les jeunes femmes se sont abandonnées, enfin toutes ces choses-là. Enfin, il était très sensible à la façon dont les femmes sont traitées dans la vie quotidienne. Et puis aussi les rapports aux enfants, on parlera peut-être un peu, les rapports surtout avec son père n'étaient pas très très faciles, toute sa vie, jusqu'à 1916, puisque c'est là que s'arrête le livre. Donc on retrouve dans son comportement qu'il a eu avec ses enfants, et dans ce qu'il vous a transmis, des choses qui vont tout à fait dans le sens de ce qu'il dit. Enfin, moi, c'est l'impression. Je ne sais pas, Christian, qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, si je peux me permettre un souvenir personnel. Oui. C'était il y a quelques temps, j'étais chez Marcel, et elle m'a montré des éditions d'Élisée Reclus et de Flammarion. Ah. De belles éditions, je dois dire que j'étais impressionné. Et ça m'a frappé, ça. Mmh. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Au fond... il était probablement plus soucieux de l'éthique, qui, à ses yeux, probablement, était plus porteuse d'émancipation et d'anarchisme potentiel qu'un récit qui, à un moment ou un autre, peut devenir mythique et voire invalidant ou gênant. Hein. J'ai eu le sentiment que, en fait, ça tenait à ça. C'est-à-dire qu'au fond, il avait confiance au savoir, dans le savoir, et le souci de dispenser cette envie de savoir à tous ses enfants. Ça m'a frappé, ça, et je me suis dit, mais quelle chance d'avoir ces lectures locales à la maison avec ses enfants sur des choses comme ça. C'est formidable, je trouve.
D'accord, mais je vous propose qu'on fasse une pause musicale et puis on va approcher un peu Jeanne Cotte, un peu beaucoup d'ailleurs.
Les petits matineux sont déjà par les chemins. Et dans le mallette de Groustouelle bleu qui danse et se berlance en le tapant le cul, il porte des livres à côté de le pain. À le matin, elle est jolie comme 36 sourires. Le soleil est doux comme les yeux des bêtes. La vie ouvre au ptio son grand livre sans lettres, où ce qu'on peut apprendre sans la peine de lire. Ah, les pauvres ch'tiolives que ceux des molettes. La moisson est mûre et les blés sont blonds. Ils penchent vers la terre comme les tâcherons qui les ont fait venir et les abattront. Ça sent la galette au fournil des riches. Et sur la route passent des tireux de pieds de biche, les chiens de troupet qui vont au pâtis, les moutons itous et les mesbarbis, frayent et s'enterlichent au long des brémoilles, malgré que les bargers se soient un bouquis, un soir d'assemblée, pour une garçaille. Dans les haies d'aubier, quand sont roses et blanches, les moignons s'accouplent à tout bout de branche, sans se douter que les hommes se marient devant le maire. Et ils s'égosillent à crier au drôle, l'amour que l'on rejette des livres de l'école, quasi comme une chose qui serait pas à faire. À l'orée du bois, il se trouve une grande croix, mais les pépéiers sont plus grands dans le bois. Il faut soyer en cave un mort sous une pierre, on baptise au bourg, les cloches sont claires, et les vignes poussent vartes sur l'ancien cimetière. Les pauvres ch'tiolives que ce sont des molettes sont sement pas foutus de vous entrer en tête. Et dans ce ticket-là, il y a de quoi s'emplir le cœur. À s'en emplir le cœur, on deviendrait des zooms, ou méchants, ou bons, n'importe ben coum. Mais vrai, comme la terre en friche ou en fleur, le soleil qui fait vivre ou la foudre qui tue. Et franc, aussi franc que la franche nature. Et puis au marché de la petite patte si bain, qu'au-dessus des lopins de seigle et de luzarne, grise comme une prison, haute comme une caserne, l'école est devant eux qui le bouche le chemin. Le maître d'école les fait mettre en rang d'oignon et vira le tête comme un général. En retenue là-bas, c'est qui pivote mal. Ça, c'est pour le cougner au métier de troufion. On rentre dans la classe où ce qu'il n'y a plus de bon lieu. On l'a remplacé par la République. Et de dessus son estrade, le maître les explique qu'est-ce qu'on y a expliqué quand le tétou comme eux. Il le compte en bio les tueries de l'histoire, et les ptios n'entendent que gloire et victoire. Il dit que le travail, c'est la liberté, que le peuple est souverain puisqu'il peut voter. Que les lois qu'instrumentent nos bons députés sont respectables et doivent être respectées, qu'il faut payer l'impôt. Monsieur, j'ai envie. Non, parce que ça vous arrive trop souvent. Il veut démontrer par là aux enfants qu'il y a des règles pour tout, même pour les vessies, et qu'il faut les suivre déjà dès l'école. Il pétria même les petites sarvelles molles, il rabat les fronts têtus d'une calotte, il varse sous l'encre, sur les fraîches menottes. Il menteux, fouéreux. Au sortu de ses bancs, les ptios sont plus bons qu'à ce qui les attend. Ça fera des conscrits, des jours de révision, traînant le drapio par tous les bordels. Des soldats à foutre au goul des canons pour si peu que les gros aillent de la querelle. Des bûcheux en grippe aux dents des machines, des bons citoyens. À jugeote doué, pousse de bulletin de vote et crache d'impôts. Des cocus devant l'église et la loi, qui baveront aux lèvres des pauvres gourgandines. Des honnêtes gens, des gens, comme il faut, qui cavreront, serrant le magot d'un bas de laine, sans voir les étoiles qui fleurissent au ciel et l'avril en fleurs aux quatre coins de la plaine. Lui, le vieux maître d'école, au fin bout de ses jours, aura les cheveux blancs d'un déclin d'âge pur. Il sera en sarré de l'estime de tout le bourg et touchera les rentes du gouvernement. Le vieux maître d'école ne sera pourtant qu'un grand malfaiseux. devant la nature.
Vous écoutez Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Je rappelle que nous parlons autour d'un livre qu'on a évoqué jusqu'à présent, mais on va maintenant parler un peu de son contenu. Enfin, déjà, son contenu, on a une petite idée par son titre. C'est donc « Je n'irai pas ». Mémoire d'un insoumis Eugène Cotte. Je rappelle qu'il a, je crois qu'il avait à peu près 27 ans quand il a écrit ça. Et on verra dans quelles circonstances il s'est retrouvé un hôpital, ou deux d'ailleurs, enfin pendant 2 mois. C'était en août-septembre 1916. Évidemment, il va être question d'insoumission, mais pas uniquement. Ce qui est très intéressant, c'est que Eugène Cotte fait partie de ces militants qui étaient dans des zones rurales. Il était en gros, on peut dire, très longtemps ouvrier agricole, en tout cas dans la période qu'il décrit. Et on s'aperçoit que dans ces milieux-là, il y avait des militants anarchistes notamment, puisqu'il va en rencontrer d'autres. Enfin, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais avant la pause, justement, avec donc sa fille, Marcel Bréchet, qui est avec nous, et ainsi que Christian, qui, lui, est membre du groupe Gaz sans couteau, puisque tout ça se passe, je ne sais pas où, il y en a dû le dire, enfin, dans le Loiret. Donc, le groupe Gaz sans couteau, un groupe qui est dans le Loiret. Et donc, Marcel vit aussi dans le Loiret. Donc, elle nous a... Moi, j'avais posé une question qui m'intéressait beaucoup, et je crois qu'il y a encore quelques compléments, c'est quel rapport, donc, Eugène Cotte, qui, après cet épisode, l'épisode qu'il y a dans ce livre, s'est marié, donc a eu 2 enfants, c'est ça. Et donc, j'étais très intéressé par les rapports. Qu'est-ce que ça veut dire de positif? En l'occurrence, apparemment, c'est très positif d'avoir un père comme Eugène Cotte. Voilà, vous en aviez un peu parlé, mais je crois que vous avez encore d'autres choses à dire.
Oui, je voulais parler de son rapport avec nous, même quand on était tout petit. Parce que si on pleurait la nuit, ou si on avait envie d'aller faire pipi, c'était lui qui se levait. C'était lui qui s'occupait de nous, et il m'aidait à manger ma soupe. Enfin bon, il avait une attitude d'un père de maintenant, quoi. Et pas... Bon, c'était très, très important, ça. Il avait aussi des tâches bien définies à la maison, par exemple, comme de couper le pain pour mettre dans la soupe, préparer la sauce de la salade, enfin, faire des choses comme ça, éplucher les pommes de toute la famille après le repas. Bon, et il participait à la vie de la maison et de ses enfants. Je voulais parler aussi... de ses lectures et des lectures que je lisais moi aussi, souvent trop jeune parce que je ne comprenais pas tout. Par exemple, Anatole France, Henri Barbusse, Zola, bon, Victor Hugo, bien sûr, Victor Hugo, c'était très important. Il aimait le théâtre aussi, il avait presque tout Molière. Sa pièce préférée, c'était bien sûr Le Misanthrope. Et chaque fois qu'il y avait une... On habitait Gien à l'époque, et chaque fois qu'il y avait une troupe qui venait, soit faire du théâtre ou de l'opérette, on est allé quelquefois à l'opérette aussi, on y allait, et il aimait beaucoup le cirque également. Bon, moi j'en ai gardé une admiration profonde pour les gens du cirque. Bon, voilà, on allait... Il a acheté une petite auto. C'était une Rosingard. Et on se déplaçait avec pour aller visiter. Par exemple, il y a les ruines des arènes de Montbouy qui sont pas très loin de Montargis. On est allé voir ça très tôt. On allait voir les châteaux. Le dimanche, on sortait et on se promenait. Oui...
Peut-être maintenant on peut voir un petit peu, justement, quand on voit ce père que vous avez approché, voir quelle est son histoire, qui a été quand même à la fois, je pense, intéressante pour lui, parce qu'à travers sa vie, etc., il a quand même fait en grande partie ce qu'il avait envie de faire, c'était déjà pas mal, c'est-à-dire à se cultiver, être sincère avec ses convictions, notamment on parlera de l'insoumission. Mais bon, au départ, il avait beaucoup de difficultés, ne serait-ce que pour faire des études, puisqu'il était dans une famille. Alors je crois que le premier chapitre, disons, de ce livre s'appelle Une enfance misérable. On parlait un petit peu justement de vos grands-parents et de dans quel milieu il était. Quel mérite il a eu, justement, d'essayer de se cultiver à travers ce milieu-là, quoi.
Mes grands-parents avaient une petite maison de culture, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire une petite ferme avec une polyculture, un peu de céréales, des pommes de terre, des betteraves et de la vigne. Parce que, bien qu'étant dans la région de Montargis, où la terre est lourde et grasse, tous les paysans avaient une vigne et produisaient leur vin. Donc mes grands-parents, ils avaient leur vigne aussi, qui a subi malheureusement les ravages du phylloxéra, ce qui leur a apporté un gros préjudice. Mon grand-père était anticlérical et républicain. Il recevait des revues que mon père lisait tout jeune, quand il était encore à l'école primaire, il était tout jeune. Ma grand-mère était plutôt croyante, je dirais pas vraiment bigote, parce qu'elle allait rarement à la messe, elle n'avait pas le temps, mais elle était croyante, et ses enfants ont été baptisés. Le grand-père, il a laissé faire. Bon. Alors, ce qu'il y a eu dans cette ferme aussi, qui a beaucoup marqué mon père, c'est qu'il avait une sœur aînée qui était domestique de ferme et qui a été séduite par le garçon de la ferme, sûrement, et elle était enceinte, il s'en est pas occupé, bien sûr. Et alors, c'était vraiment horrible pour elle, et pour sa famille, c'était insupportable. Elle était vraiment rejetée. Elle a eu une petite fille qui a été élevée quand même par les grands-parents, toute petite. Et mon père a été le seul il avait d'autres frères aussi, mais qui étaient plus jeunes. Il a été le seul à défendre sa sœur, à lui apporter de l'aide, parce que lui, il était ouvrier agricole, mais il l'a aidé un peu financièrement. Enfin bon. Il était très marqué par ça et complètement horrifié par l'attitude de ses parents vis-à-vis d'elle.
Oui, d'ailleurs, sa sœur, on sent qu'il y a quelque chose de très fort qu'il a eu avec sa sœur, parce que ils ont vécu justement cette période, et je pense que l'aide, enfin l'amour qu'il avait pour sa sœur l'a aidé certainement dans cette période-là, qu'il a dû être dur pour elle, je pense.
Oui, tout à fait. Et après, elle-même l'a aidé dans d'autres circonstances.
Tout à fait, le voit par la suite.
Elle s'est mariée, après elle a pris sa petite fille avec elle, et mon père, quand il parlait d'Eugénie, donc sa nièce, il était vraiment en admiration devant elle et il l'aimait beaucoup.
Juste deux petites choses, petites, importantes, puisque c'est une période de la vie importante, justement, dont on parle. Là, c'est la période, justement, où on se fait une personnalité, même si on ne s'en rend pas compte. Donc, il y avait déjà un premier aspect qui est à travers les lectures qu'avait son père anticlérical, qui ont certainement eu, peut-être pas sur le moment, mais qui ont dû jouer justement sur sa distance qu'il va prendre avec le catéchisme où il avait été. Et un deuxième aspect aussi, c'est que dès cette époque-là, il était donc tout jeune, il a quand même eu son certificat d'études, et apparemment, d'après ce que je comprends, c'était quand même quelqu'un d'assez brillant qui apprenait très facilement. Donc c'est quand même important de signaler ça, parce que certainement il a dû prendre goût d'une façon ou d'une autre à la lecture. Il y a plein, pas mal de choses dans cette période-là.
Oui, il a eu son certificat d'études à 11 ans.
Oui.
C'était bien. Et il a eu, à la suite de ça, il était quand même un des premiers du canton.
Oui, d'ailleurs, pour situer à l'époque, les instituteurs pouvaient avoir un rôle très important pour encourager des fils de petits paysans d'ouvriers agricoles pour continuer des études. Quoi.
Et il a reçu un livre, Le dernier des Mohicans.
Ah, d'accord.
offert par le ministère de l'Instruction publique.
D'accord.
Et un livret de caisse d'épargne offert par la commune de Panne de 5 francs.
D'accord.
À l'époque, c'était pas rien. Bon. Et ce livre, il y tenait d'une façon extraordinaire. Et moi, j'y tiens encore beaucoup, parce que c'est un très beau livre, relié, doré aussi. Et c'est une histoire vraiment poignante, puisque c'est l'histoire d'une tribu du nord des États-Unis qui a été décimée, quoi. Ça, ça a été très important, je crois, pour lui. C'était son premier livre, en somme. Hein, voilà. Donc,
Oui, donc, on pourrait penser, je dis ça parce que je pense, bon, une génération un peu décalée, mais avec mon père, je ne sais pas que c'est exactement la même histoire, mais bon, lui, il a continué, il a pu continuer les études, il a pris une bourse, bon, enfin, peu importe. Alors que dans le cas de votre père, ce n'est pas possible. Alors, à travers la lecture, l'impression que ça donne, enfin, c'est ce qu'il dit, je pense, c'est que comme ses parents étaient très pauvres, bon, on parle de sa sœur, en fait, elle était placée pour faire remonter un peu d'argent. Et évidemment, lui, s'il avait poursuivi des études, il n'aurait pas pu aider ses parents. C'est ça qui a dû se passer, je pense.
C'est ça, je pense aussi. Et l'instituteur a quand même insisté pour que mon père continue encore un an, enfin, bon, à peu près, à travailler avec lui. Il le prenait en élève individuel, quoi. Voilà. Donc, tout ça, je pense que ça a été important pour lui. Ensuite, il est parti. Il a commencé à travailler avec son père, déjà, à la ferme. Et puis après, il a voulu apprendre un petit peu à servir d'un cheval. Et il est parti chez un voisin avec qui il a travaillé pendant un certain temps. Et puis ensuite, il s'est éloigné. Il a travaillé dans des fermes comme charretier et ouvrier agricole. Et puis, il lisait quand même, il s'intéressait à des revues qu'il achetait comme il pouvait. Et il avait lu quand même pas mal de revues anarchistes ou de brochures. Et il se trouve qu'il a fait la rencontre du fils d'un sabotier. Je peux peut-être lire le passage livre où cette rencontre s'est produite.
Surtout, c'est quelqu'un qui est... Enfin, cette rencontre l'a pas mal marqué, donc c'est important de le signaler. Voilà.
En revenant un soir de Chuel, c'est donc une petite commune qui se trouve dans le Loiret, et où il ne travaillait pas très loin de là, je passais chez un sabotier pour y acheter une paire de sabots. C'était un homme dont on parlait à cause de son anticléricalisme, mais qui, comme mon père, avait le malheur de s'adonner de temps en temps à la boisson. Je ne soupçonnais pas qu'il eût un fils dont les idées se rapprochent autant des miennes. Ce soir-là, le père B n'y était pas. La mère me donna la paire de sabots et le fils qui se trouvait là avec un camarade m'offrit un verre de cidre. J'acceptai avec plaisir et m'assis auprès du feu qui flambait dans l'âtre. Ils reprirent leur conversation et quelle ne fut pas ma surprise, ils parlaient de la question sociale. Je les écoutai un moment et pris la parole d'une façon qui ne leur laissait pas de doute sur mes opinions. Ils furent au moins autant surpris que moi et la conversation cessa de rouler sur les détails, pour tomber dans le fond de la question. Nous ne tardâmes pas cependant à montrer des divergences de point de vue quand ils m'ont dit qu'ils étaient anarchistes. J'avais déjà entendu parler des anarchistes. Les journaux bourgeois ne se sont d'ailleurs pas fait faute de les représenter une bombe à la main et un poignard de l'autre. Les actes de Ravachol et Caserio avaient été soigneusement exploités. Cependant, le peu de vérité que j'avais pu savoir sur eux, à côté des injures et des calomnies, me suffisait pour que je ne sois pas effrayé par ce mot. D'ailleurs, anarchie est l'antinomie de monarchie. Et comme j'avais assez lu ce que valait la monarchie, je ne pouvais être effrayé du régime contraire. Mais je ne comprenais pas, d'autant que les brochures socialistes les représentaient comme des utopistes ou des dilettantes bourgeois dont les actes et la propagande faisaient du tort aux revendications sociales. C'était tout ce que je savais sur l'anarchie. Eux connaissaient le socialisme aussi bien que moi pour avoir passé par cette phase avant d'en arriver où ils en étaient. Ils m'exposèrent les défauts du socialisme, que j'avais déjà un peu soupçonné, mais qui n'étaient pas suffisants pour me faire abandonner cette doctrine. Nous discutâmes ainsi un moment et nous séparâmes ce jour-là, après que Georges, c'est le nom de l'un d'eux, l'autre s'appelait Gaston, m'eut prêté quelques bouquins traitant de l'anarchie et que nous nous fûmes promis de nous revoir en emportant déjà un germe d'amitié l'un pour l'autre qui devait grandement se développer par la suite.
Oui, là, c'est assez intéressant de dire ça, parce que, bon, pour situer l'époque, je sais plus, il devait avoir à peu près 16-17 ans.
Oui.
Alors, je sais pas si ses copains, enfin, ils sont devenus des amis et copains et complices, avaient à peu près le même âge, j'imagine,
oui.
Une chose comme ça. Et on voit des choses qui vont, qu'on va toujours retrouver avec lui, c'est-à-dire, avec d'autres anarchistes d'ailleurs, mais. Le plaisir finalement de discuter, même si on n'est pas d'accord, parce que dès le début, lui, il n'avait pas forcément des notions très précises, mais il était plutôt tenté par une espèce de socialiste qu'il ne connaissait pas vraiment, parce qu'il n'avait pas eu l'occasion de dire des choses. Donc la discussion, les échanges, les livres, parce que je me souviens qu'avant cet épisode, il se plaignait de ne pas pouvoir accès à avoir beaucoup de livres, je crois qu'il y avait une petite bibliothèque rurale. C'est, je ne sais pas s'il avait déjà lu Victor Hugo à ce moment-là, mais enfin, ce qui est très bien d'ailleurs. Bon. Oui, je crois qu'il avait lu Les Misérables, notamment, qu'il avait pas mal. Mais cette rencontre-là lui permet effectivement beaucoup de choses. Quoi.
Oui.
Et d'ailleurs, je crois qu'ils vont se revoir.
Oui,
assez souvent, hein.
Bien sûr, ils vont se revoir. Et le fils du sabotier est devenu sabotier lui-même.
Voilà.
Hein, et il faisait des sabots merveilleux, on peut dire. Très léger. Moi, j'en ai usé étant toute petite, hein, les sabots.
Eh ben, moi aussi, j'ai mis des sabots et j'allais me faire faire mes sabots. Dans la Creuse, il y avait encore un sabotier
voilà.
Il y a encore quelques années. Et effectivement, ça se faisait sur le pied, avec le pied.
Voilà, exactement.
Et il y avait des sabotiers dans beaucoup de villages,
oui,
puisque
oui.
Les paysans, enfin, dans pas mal de régions, ils avaient des sabots. Quoi.
Et les sabots étaient jolis pour les petits.
Mais,
mais
oui,
vraiment
tout
petit,
ouais.
Hein, j'avais peut-être 3-4 ans quand je les ai mis et usés. Et ils étaient très légers et faits vraiment ajustés à mon pied. Bon. Donc ça, c'était très important. Ils sont restés amis longtemps, jusqu'après la guerre. Après, il y a eu des divergences, mais enfin bon.
Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale, parce que ce que vous avez lu, là, justement, c'est un moment assez fort pour lui, je pense, hein. Et donc, on va voir un petit peu, maintenant, il a accès un peu à la littérature anarchiste ou autre, il a accès à des compagnons anarchistes, et donc, on va voir comment il se sent anarchiste, et qu'est-ce qu'il entend par là, parce que c'est toujours quelqu'un qui... On sent qu'il réfléchit, qu'il n'est pas forcément d'accord avec tout de l'anarchisme. Enfin, dans son livre, il y a à la fois une description de ses rencontres, de ce qu'il fait, de ce qui lui arrive, mais aussi des réflexions qui sont liées à l'actualité de l'époque. Donc un peu de musique, Monique.
Ah, pour une belle noce, c'était une belle noce. Il y avait, oui, d'abord, une jolie mariée. Il y avait de la famille, des quatre coins de la Biosse, offrant des cochelins à pleine corbeillée. Il y avait de la mangeaille à s'en foutre, râla, des tourtes à la sauce et des ouais rôtis, avec un brigand de petit vin de Saint-Y qui remontait d'avant le phylloxéra. Il y avait le vieux Pitance, un colleux de bêtises, et le cousin Totor qui est au bon marché. Oh, ces Parisiens. Ils sont enragés. Des chansons à faire pisser dans sa chemise. Il y avait des volées de jeunesse raquillantes qui dansaient en tenant les gants par le cou. Il y avait de l'amusement et de la boune entente. Des gens binguétiaux, d'aucun même binsou. Oh, pour une belle. Mais c'est fini la noce. Au revoir, à terre tous. Il fait presque jour. Pitance s'est relevé dessus le fumier de la cour et les parents de Bios montent dans le carrosse. Si ben qu'il ne reste plus que tous les deux à cette heure. Elle, l'enfant gâté, élevé en ville, Ellie, elle gros farmier dans la cour tranquille. Les coqs matineux saluent le bonheur. Et voilà la jolie mariée qui s'appresse en faisant ronron comme une petite chatte blanche qui veut des lichades et puis des caresses. Mais quoi donc? Son homme est là comme une planche. Piqué vis-à-vis le peignon de sa grange, il a relu quel ciel d'un air si étrange. C'est-il qui chercherait à lire dans les nuages la bonne aventure de le jeune ménage? Hé, Pierre! Qu'un soupir. C'est tout ce que tu me comptes? Mais Ellie, s'emportant comme une soupe au lait. Non, mais regarde-moi un peu le temps qu'il fait, couillette!
Tu vois pas la haine qui monte? Ça va mouiller dur et ça sera pas long. Mon foin, nom de Dieu, qui est pas en Milon, la mangeaille aux bêtes qui va être foutue. En route! Milono avant que l'eau s'est échu.
Et la v'là partie, la mariée toute blanche, piétant dans son ouel et ses falbalas, portant sur l'épaule une fourche à deux branches, l'âme toute retournée de se retrouver là. Quand il était venu pour lui faire sa demande, dans la petite boutique où mourait son cœur, elle avait dit oui, tout de suite, sans attendre, se gitant vers lui, comme vers un sauveur. Elle avait dit oui, songeant, sans malice, elle, dont le corps brûlait à l'air des beaux jours, que c'en était des fouets comme un vrai supplice. Quand on a un homme, on a de l'amour. Et la v'là, fourchant le truff, incarna, sous le désir féroce et l'aube mauvaise, à nuit, dré le moment, qu'a devrait être ben aise, comme au paradis dans le fin fond des draps. Parce qu'auparavant que d'être devenue femme, elle est devenue une femme de paysan, dont la vie est prise, comme dans un courant, entre le foin qui mouille et les vaches qui brument. Les taches, la grippant au creux de sa couette, mangeront les baisers sur le bord de ses lèvres, et sécheront son corps tout chaud de jeune sève, qui tombera plus frais qu'un arpent de guérouette. Les gésines bomberont son doux ventre ziaux, les couches rachiront sa peau fine et pâle, et vieille à 30 ans, traînant ses sabiaux, abêti de travail et cœurdé du mal, elle aura plus Dieu que pour voir à son tour le ciel noir, sur les prés, couleur d'espérance, esclave de la terre, jalouse, qui commence par y voler sa première nuit d'amour.